Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de ce premier numéro de Mélomanie post-reconfinement. Le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale ne baisse pas le rideau, même si le rideau malheureusement est baissé pour quelques semaines sur la scène culturelle nationale, les salles de concert et d'opéra n'échappant pas à la règle. On avait beau s'y attendre, c'est tout de même un coup dur pour tous ceux qui aiment la musique et la musique vivante sur scène. La conséquence, évidemment, c'est la suspension, le report ou l'annulation de tous les concerts jusqu'à nouvel ordre. Ceci dit, soyez rassurés, ça ne va pas nous empêcher de faire cette émission où vous allez retrouver les mêmes rubriques que de coutume, ainsi que le chroniqueur le plus fidèle de Mélomanie, j'ai nommé Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous avons aussi un invité d'honneur dans cette émission, un invité qui va bien se produire en concert samedi à la Lograin, sans public mais avec l'Orchestre National du Capitole, un jeune guitariste originaire de Toulouse qui fait une carrière internationale. Vous aurez reconnu Thibaut Garcia que je salue et qu'on est toujours très heureux de recevoir dans cette émission. En plus de ce concert, nous allons parler avec lui du CD récemment paru sous le label Erato Warner Classic qu'il a enregistré avec l'Orchestre National du Capitole. Et nous allons aussi évoquer la saison Toulouse Guitare qu'il organise avec ses parents. Nous verrons tout ça en seconde partie de ce numéro. Place maintenant à l'actualité musicale de la semaine dernière. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et c'est justement à la Halle au Grain que va nous amener le premier concert sur lequel nous allons revenir. Il a été donné vendredi, c'était le deuxième rendez-vous de la saison des grands interprètes. Et l'on y retrouvait un habitué de ce prestigieux rendez-vous, le Budapest Festival Orchestra et son chef emblématique, Ivan Fischer. Ils accompagnaient un jeune pianiste que Thibaut Garcia connaît bien d'ailleurs, Serge Chauzy, qui était cet as du clavier français.
Eh bien, c'est un musicien tout jeune, qui a 23 ans, que l'on connaît maintenant bien, Alexandre Kantorov, et qui a un passé récent, on peut dire prestigieux, puisqu'il a été en 2019 le premier Français à gagner ce prestigieux prix qui est le prix Tchaïkovski de Moscou, donc qu'aucun Français n'avait encore gagné jusqu'à maintenant, et donc c'est lui qui l'a eu, il avait 22 ans, c'est quand même incroyable. Donc on a eu effectivement un concert que je me permettrai de qualifier d'éblouissant pour tous les participants, d'une part l'orchestre, le Budapest Festival Orchestra, qui est un orchestre qui a une personnalité, un ton, des couleurs, une force, un pouvoir expressif formidable, sous la direction de son fondateur d'ailleurs. Et Ivan Fischer est un très grand chef, hein, mais il a sous ses ordres, en quelque sorte, un ensemble de musiciens tout à fait magnifique. Donc, ce concert-là, comprenait plusieurs œuvres, dont un concerto, évidemment, sans doute, mais il s'est ouvert avec une symphonie qui est une œuvre tout à fait singulière de Benjamin Britten et qui s'appelle la Simple Symphony. C'est une symphonie uniquement pour cordes qui a été écrite en 1933-34 et qui en fait utilise des bribes de partitions que le compositeur avait conçues pour piano en tant qu'adolescent entre 1923-1926. Donc c'est une œuvre à la fois de jeunesse et de maturité. Et là, alors, il n'y a que des cordes, donc ce qui est renversant, ça a été la précision, la cohésion de l'ensemble qui conféra à cette exécution une espèce d'intensité tout à fait impressionnante. Alors, en regardant en même temps, on a pu voir les doigtés des violons qui étaient parfaitement coordonnés, le choix des phrasés absolument choisi et adopté par tout le monde. Il y avait vraiment, c'était d'une perfection incroyable, avec surtout le fameux mouvement qui est une espèce de sublime horlogerie, qui est ce mouvement tout en pizzicato, playful pizzicato. Alors ça, c'était tellement sublime que le public spontanément a applaudi après ce mouvement qui n'était pas du tout le dernier de la symphonie, mais c'était tellement impressionnant que ça a attiré vraiment un enthousiasme de la part du public incroyable. Donc vraiment, déjà une première œuvre formidable, formidablement bien joué. Et puis, en deuxième partie, donc, eh bien, c'était l'œuvre concertante qui était en l'occurrence le concerto numéro 2 de Liszt, avec Alexandre Kantorov comme soliste, donc, hein, Alors, apparemment, il aime les concertos qui ne sont pas les plus joués des compositeurs. Il avait joué précédemment, en 2016, si je me souviens bien, le deuxième concerto de Tchaïkovski, et pas le premier. Et donc, et là, pareil, hein, le deuxième concerto de Liszt n'est pas le plus célèbre. Le plus célèbre, c'est le premier quand même, avec ce fameux triangle que l'on entend.
Qu'il a déjà joué également. Hein.
Qu'il a déjà joué, mais...
Sous la direction de son père, d'ailleurs.
Ah, voilà, oui, et oui, il est d'une famille de musiciens, on le sait, même sa mère est violoniste.
Hein, deux parents.
Deux parents, tout à fait, violonistes tous les deux. Eh bien, voilà, donc, il a joué ce concerto. Alors, évidemment, c'est une œuvre très virtuose. Sur ce plan-là, bon, il n'a non seulement aucun problème, mais il n'a pas besoin d'être ostentatoire dans sa technique, C'est éblouissant, hein. C'est une technique tout à fait incroyable, avec une espèce de à certains moments de sauvagerie percussive et à d'autres moments une finesse avec des phrasés que je me suis permis de qualifier de phrasés de félin, tout à fait magnifique. Donc il a joué ce concerto qui se joue en un seul mouvement, enfin c'est plusieurs mouvements enchaînés, qu'il a joué avec sa jeunesse, sa vitalité, à la fois la perfection technique et la perfection expressive, et puis une espèce, comme s'il s'agissait d'une improvisation, mais une improvisation parfaitement au point, donc c'était tout à fait magnifique. Et alors évidemment, il était entouré là par l'orchestre idéal pour jouer ce répertoire, hein. L'orchestre parle magyar, hein, donc c'était tout à fait en situation, donc le dialogue entre le soliste et l'orchestre était tout à fait idéal. Donc vraiment, un triomphe qui a accueilli cette exécution, bien sûr. Alors, le concert avait débuté à 18h30, et vous savez que du fait du couvre-feu, il fallait le terminer suffisamment tôt. Donc, il a donné un bis, mais il aurait pu en donner 3-4. Le public aurait continué à le rappeler. Alors, en bis, il a changé complètement de répertoire. Il a joué une ballade du jeune Brahms, la ballade opus 10, numéro 2, qui est une ballade profonde, très nostalgique, très, très recueillie, tout à fait l'inverse de ce que donne ce concerto de Liszt. Donc c'était tout à fait magnifique. Et enfin, le concert s'est achevé par, c'était inévitable, un nouvel hommage à Beethoven. Vous savez, je ne vais pas répéter que c'est le 250e anniversaire de sa naissance, et bien si, je l'ai répété. Donc il a joué, l'orchestre a choisi de jouer non pas une des symphonies les plus jouées, puisqu'il s'agissait de la quatrième. La quatrième, elle n'est pas très souvent donnée en concert.
Comme la plupart,
hein,
des symphonies à nombre pair, la six. Ouais.
Voilà, alors les pairs sont les symphonies réputées heureuses par rapport aux impairs, qui sont considérées comme étant plus dramatiques ou héroïques. Et cette quatrième est une merveille, est une partition magnifique, hein, qui est joyeuse, une symphonie joyeuse. Mais là, elle a été prise très au sérieux par l'orchestre, qui lui donne une intensité, une profondeur tout à fait inhabituelle, on doit dire. Un sens aigu en particulier de la progression, l'ouverture, hein, c'est une ouverture lente qui, à la Haydn un peu, comme dans certaines symphonies de Haydn, c'était magnifiquement amené. Avec, jusqu'à la fin, une espèce de crescendo vers l'exaltation de la lumière pour le dernier mouvement. Et donc, c'était tout à fait magnifique, là aussi, que de cette exécution. Alors, bon, évidemment, on aurait bien aimé avoir un bis de l'orchestre, ça se donne quelquefois, mais l'horaire ne le permettait pas, donc on a dû arrêter là. Alors, je voudrais préciser quand même que, pour tout le concert, tous les musiciens, sauf les musiciens d'instruments avant, évidemment, étaient masqués. Le chef était masqué et le soliste était masqué. C'est la première fois de ma vie que je vois un ensemble de musiciens masqués. C'est tout à fait impressionnant. Donc, voilà, un concert vraiment qui a marqué. D'autant plus que s'annonçait une période difficile pour l'exécution de la musique vivante.
Alors, en parlant des musiciens qui doivent jouer masqués, Thibaut Garcia, vous commencez à connaître ça maintenant. Vous venez de répéter avec l'Orchestre du Capitole en jouant masqué. Comment ça se passe? Ça doit être très pénible quand même.
Alors,
même pour un guitariste.
Là, même pour un guitariste, pour tout le monde, c'est pénible. Et alors, jusque-là, j'ai connu que les répétitions masquées. À chaque fois, les concerts se faisaient sans masque. Maintenant, on verra samedi si on a le masque ou pas sur scène. En tout cas, c'est quand même bien plus agréable sans le masque.
Et puis un mot sur Alexandre Kantorov, parce que avez un petit peu partie liée avec lui. En tout cas, vos destins sont liés, d'une part parce que vous êtes deux musiciens de la même génération, mm-hmm, et d'autre part parce qu'il a été à ce moment-là, votre concurrent malheureux lors des victoires de la musique classique 2018, c'était 2018, vous
2019, c'était je ne me rappelle même 2018, plus. Je ne sais même plus.
Oui, on s'y
Moi,
perd.
Non, 2019.
En février 2019.
Voilà, c'est ça.
Voilà, il était dans les trois finalistes avec vous et Théo Fauchonneret. Donc vous étiez face à deux pianistes et c'est le guitariste qui a eu le prix.
Voilà.
Mais bon, vous le connaissez bien, je crois que vous l'admirez beaucoup.
Oui, c'est un artiste que je trouve absolument exceptionnel. D'ailleurs, il n'a pas eu les révélations cette année-là. Par contre, il a eu la victoire l'année d'après.
Le soliste instrumental.
Le soliste instrumental qui mérite amplement. Moi, c'est un musicien que j'aime énormément pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens chez qui on dit « Ah, ils ont énormément de technique » ou « Ils ont énormément de musicalité ». Ben lui, il se trouve qu'il a les deux à un niveau incroyable. C'est-à-dire qu'on en prend plein la tête au niveau des notes, de la fougue, de la virtuosité, mais tout est musical.
Oui.
Donc c'est rare d'avoir des musiciens comme
c'est
ça.
C'est un musicien qui a sa couleur,
absolument.
En plus de sa virtuosité.
Il s'est presque caché sa virtuosité et la technicité de son jeu derrière la musicalité. C'est vraiment impressionnant. C'est un outil, la virtuosité, c'est pas une fin.
Complètement.
Alors, je n'ai pas d'extrait du deuxième concerto de Liszt joué par Alexandre Kantorov, mais comme il l'a joué l'an passé, Serchosi vous y faisiez allusion, il a joué le deuxième concerto de Tchaïkovski avec l'Orchestre National du Capitole à la Lograin. Je vais vous proposer maintenant d'écouter un extrait de ce concert. Alexandre Kantorov joue Tchaïkovski. Le deuxième concerto pour piano de Tchaïkovski interprété par Alexandre Kantorov, accompagné ici par l'Orchestre National du Capitole, c'était l'an dernier à la Halle au Grain. À l'époque, on était loin de se douter de ce qui nous attendait en 2020. L'autre événement sur lequel je voulais revenir a eu lieu au Théâtre du Capitole. Si vous avez écouté notre émission de la semaine dernière, dont Christophe Gristy était l'invité, vous savez qu'il y avait des journées forêts au Capitole. Un vendredi soir était programmé Pénélope, l'unique opéra composé par Gabriel Fauré dans sa version originale pour piano, sous la direction d'Anne Le Bozec. Samedi, il y avait deux récitals, celui du pianiste Nicolas Stavi, puis celui de la mezzo Victoire Bunel et du ténor Mathias Vidal, accompagné en alternance au piano par Sarah Ristorcelli. Et enfin, dimanche après-midi, dernière proposition avec le récital du baryton Marc Moyon, accompagné par Anne Le Bozec, encore elle. Une trentaine de mélodies de forêt étaient au programme. Rappelons que le compositeur ariégeois est un des maîtres du genre et l'un des plus prolifiques en la matière. Anne Le Bozec, on la connaît à Toulouse, parce qu'il celle-ci est souvent produite en duo avec son amie Sandrine Tilly, la flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole. On connaît moins Marc Moyon, en revanche, bien que ce soit un chanteur très demandé, surtout dans le domaine de la musique baroque et ancienne. Il a souvent collaboré avec William Christie et les Arts Florissants, également avec Jordi Savall ou avec Hervé Niquet et le Concert Spirituel. Cela étant, il ne néglige pas le répertoire mozartien, puisqu'il a été Papageno dans La Flûte Enchantée et Guglielmo dans Così fan tutte. On l'a entendu aussi dans de l'opérette, par exemple dans La Vie parisienne d'Offenbach ou dans de l'opéra contemporain, mais oui, entre autres dans le Roméo et Juliette de Pascal Dussapin. On peut aussi rappeler qu'il a été Péléas dans Péléas et Mélisande de Claude Debussy et qu'il doit reprendre ce rôle début mars prochain, Je touche du bois, au Théâtre du Capitole, aux côtés de Victoire Bunel qui sera Mélisande. Et la mélodie dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, ce n'est pas nouveau pour Marc Moyon, lui qui travaille en duo avec Anne Le Bozec depuis près de 15 ans. Ils ont fait paraître un CD Forêt et ses poètes début 2020 sous le label Harmonia Mundi. Pour rendre hommage à ce compositeur qui, contrairement à la plupart de ses contemporains, a mis en musique de nombreux poètes de son temps, là où d'autres se concentraient seulement sur quelques-uns, ce sont les mélodies de ce CD qui ont constitué l'essentiel du programme dimanche dernier au Capitole. Anne Bozec est une excellente accompagnatrice, on le savait déjà. Quant à Marc Moyon, c'est un chanteur qui possède une diction d'une incroyable netteté. J'avoue que j'ai rarement entendu ça, on comprend tous les mots. Mais je veux dire que je ne suis pas très fan de sa voix et de son timbre, qui manque à mon goût de lumière et de phrasé. Alors comme dirait Robert Pénavert, c'est effectivement une affaire de goût. Mais Thibaut Garcia, je vais vous passer la parole tout de même, parce qu'il se trouve que vous adorez ce CD et que vous adorez Marc Moyon. Alors défendez-le.
Bah là, entre Kantorov et Marc Moyon, vous m'avez fait une émission coup de cœur. Ce CD Forêt et ses poètes, en fait j'ai eu l'occasion de l'entendre en direct, en live à la salle Cortot l'an dernier, et pour moi ça a été un des grands moments de musique, mais pas que de musique, de littérature aussi je dirais, dans le sens où c'est la première fois que j'entendais un chanteur, comme vous le disiez, chez qui on entend tous les mots.
Non, c'est vrai, c'est exceptionnel,
tous les mots, ça, ouais. Et du coup j'ai été pris d'émotion aussi par le texte, et ce qui ne m'arrive pas d'habitude chez les chanteurs, souvent c'est la voix, c'est la mélodie. Là il y avait, bon, la voix que j'aime beaucoup, mais ce texte qui m'a vraiment ému, et pour vous dire, je pense que j'avais les larmes, j'ai pleuré, je pense, pendant les trois quarts du concert.
Ah, mais il y a de quoi sur les mélodies de Forêt.
Vraiment.
Je comprends tout à fait.
Donc pour moi, c'est un grand coup de cœur que cet album, en tout cas ce programme.
C'était une découverte un peu pour vous, les mélodies de Forêt
Ah ouais, c'était une découverte. Nous, à la guitare, on n'a pas de répertoire de Forêt, on n'est pas... Alors, ça donne envie peut-être d'aller voir de ce côté-là, pourquoi pas faire des arrangements avec des chanteurs.
Je pense que c'est une idée.
On verra si ça se passe.
Alors, le fait est que Marc Moyon et Anne Le Bozec ont été très applaudis à la fin du concert. Manifestement, le public était très heureux de ce qu'il a entendu. Et après tout, c'est ce qui compte. Le mieux, c'est que vous vous fassiez vous-même votre idée en écoutant maintenant Le Secret, mélodie de Gabriel Fauré, chantée par Marc Moyon, accompagnée au piano, bien sûr, par Anne Le Bozec. Please. Le secret, magnifique mélodie de Gabriel Fauré sur un poème d'Armand Sylvestre, chanté par Marc Moyon, accompagné au piano par Anne Bozek, duo avec lequel nous concluons cette première partie d'émission. Petite pause de quelques secondes et nous nous retrouvons avec mes invités pour la seconde partie de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie d'émission avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, le guitariste Thibaut Garcia, qui va donc finalement bien se produire ce samedi à la Halle au Grain à 18h, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, pour y jouer le fameux Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Vous nous confirmez donc, Thibaut, que le concert n'est pas annulé, qu'il va bien entendu se faire sans public, mais qu'il va être diffusé en direct sur la page Facebook de l'orchestre. A priori, c'est ça.
A priori, c'est ça. C'est-à-dire que le concert est maintenu sans public parce qu'on n'a pas le droit de se retrouver avec un public. Par contre, les musiciens ont le droit de travailler. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir quand même faire vivre la musique malgré ce reconfinement.
Bon, alors ça, c'est une excellente nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas personnellement. Je ne sais pas vous, Serge, si vous pensiez que ça pouvait se faire comme ça.
On est ravis, oui, oui. Effectivement, c'était une grande déception, puisque le concerto d'Aranjuez par Thibaut Garcia, ça fait quelques années qu'on le connaît, donc on aimait bien le réentendre. Là.
En version 100% toulousaine à Toulouse.
Exactement.
Voilà. Alors, je précise que dans le programme de ce concert, qui est en fait un concert Happy Hour, du cycle Happy Hour, il y a aussi la 3e symphonie, l'héroïque de Beethoven. Et il faut être héroïque en ce moment, ça tombe bien. Ce concert vient aussi saluer l'apparition récente de votre CD, Thibaut Garcia, sous le label Erato Warner Classic, comme je le rappelais en début d'émission. Erato Warner Classic, c'est votre maison de disques depuis vos débuts. Mmh. Un CD que vous avez sobrement intitulé Aranjuez. On sait que le concerto des Aranjuez de Joaquín Rodrigo est une œuvre très connue du grand public, surtout pour son célèbre adagio. Mais je crois que c'est aussi une œuvre qui a beaucoup compté pour vous. Est-ce que c'est celle qui vous a donné envie d'être guitariste ?
On peut dire ça, c'est une des premières œuvres que j'ai découvertes dans ma vie, même avant de toucher la guitare. C'est-à-dire que le concerto d'Aranjuez, mon père avait un DVD de Narciso Yepes qui jouait ce concerto.
Alors, j'allais vous demander justement quelle version
et
vous
voilà,
avez eue la première fois.
C'était la version Narciso Yepes.
Historique.
C'est ça, mais c'était une grande version et j'ai eu la chance de découvrir cette musique. En fait, vous savez, le répertoire guitare, j'y ai accédé avant de jouer de la guitare parce que mon père en jouait et mes parents écoutaient de la guitare classique. Donc c'est une pièce, maintenant c'est moi qui la joue avec un orchestre aussi exceptionnel que l'Orchestre du Capitole, c'est assez émouvant, ouais.
Qu'est-ce que cette musique évoquait pour l'enfant que vous étiez à l'époque et qu'est-ce qu'elle évoque encore pour vous aujourd'hui ? Parce qu'elle est très évocatrice, cette musique, justement.
C'est vrai, c'est une réflexion que je ne me fais pas forcément parce que moi, je vis ma vie un peu innocemment en avançant comme ça, en allant tout droit. Mais maintenant que vous posez la question, c'est vrai que je me revois petit devant ma télé en train de regarder Narciso Yepes jouer ça et je le vivais comme un spectateur et jamais je pensais qu'un jour ce serait moi l'acteur de ce concerto.
Ah oui.
Donc me voilà maintenant ici à le partager avec des musiciens exceptionnels et j'en suis heureux parce que c'est quand même de la très très grande musique et c'est vrai qu'on dit souvent qu'on connaît peu le répertoire pour guitare et là on a une œuvre qui fait partie des œuvres de musique classique les plus connues.
Oui, que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu, l'adagio là, du concerto d'Aranjuez, plus il a été transcrit par je ne sais combien de musiciens, Miles Davis l'a enregistré à la trompette. Plus modestement, Richard Anthony fait une version voilà, sur la musique d'Aranjuez, je le dis pour l'anecdote.
Oui.
Mais le titre exact, c'est Concerto pour guitare et orchestre en ré majeur. Il a été composé par Rodrigo à Paris.
À Paris.
En 1939.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faisait à Paris ?
Rodrigo vivait à Paris et il a composé cette œuvre là-bas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires autour de cette œuvre.
Oui.
De légendes aussi. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. J'aimerais beaucoup en parler d'ailleurs avec la fille de Rodrigo, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et d'histoires personnelles. Par exemple, on explique que ce deuxième mouvement serait né justement de
du bombardement de Guernica, je croyais.
Alors, il y a plusieurs histoires. Il y a cette histoire et puis il y a une histoire très très personnelle, c'est que Rodrigo, la femme de Rodrigo, aurait accouché d'un enfant mort-né. Et cette douleur aurait inspiré le deuxième mouvement du concerto d'Aranjuez et on la ressent, cette douleur.
Oui, il est très mélancolique, très nostalgique. Je me suis aussi posé la question, je sens aussi qu'il y a une musique de l'exil, de la nostalgie du pays perdu, parce qu'il est à Paris depuis longtemps.
Ouais.
Sans doute depuis le début de la guerre civile. Enfin, je ne connais pas très bien l'histoire, vous devez la connaître mieux que moi.
Pas spécialement mieux que vous, je connais pas très bien, en fait je connais pas très précisément la vie de Rodrigo, je connais bien sa musique, son esthétique musicale, mais sa vie, voilà, j'aimerais vraiment échanger avec la famille.
Oui, et puis il faut rappeler que Rodrigo était aveugle. Et donc, il a été aveugle très tôt, à 2-3 ans, je crois.
C'est ça. Hein.
Donc, c'est incroyable. Il composait. Alors, j'ai appris ça récemment. Il composait en braille.
Il composait en braille. Il y a des partitions en braille de Rodrigo.
Ça, j'ignorais
c'est
d'ailleurs
tout à fait
que
incroyable.
Ça existait, les partitions en braille.
Et c'est d'ailleurs, c'est ça qui est marrant dans la musique de Rodrigo, c'est qu'il y a des versions où on n'est pas sûr que ce soit les bonnes notes. Parce que Rodrigo se faisait forcément aider d'un traducteur musical, et alors souvent des guitaristes pour la musique pour guitare, et dans les manuscrits on retrouve des choses, on se demande si c'est vraiment de lui ou de la personne qui a traduit, et ça restera un mystère.
Ouais, alors ça c'est toujours intéressant pour les archivistes de la musique. Alors il semble que ce soit une commande, cette œuvre, en fait c'est une commande à la base, je crois.
C'est une commande, c'est autour d'un
marquis.
D'un repas, voilà, avec un marquis. Et
marquis de Bolarque.
C'est ça, exactement. Et Regino Sainz de la Maza, qui était un compositeur et guitariste espagnol.
On va parler de lui.
Et en fait, c'est Sainz de la Maza, pendant ce dîner, qui dit mais Joaquín Rodrigo, il faut que vous composiez le plus grand concerto pour guitare jamais écrit. Rodrigo n'avait jamais écrit de concerto pour guitare. Il lui a dit, c'est acté, mon ami. Et il a composé ce concerto d'Aranjuez.
Alors, c'est le premier des 5 concertos pour guitare de Rodrigo. Alors, les 4 autres, on n'en parle jamais, mais qu'est-ce qu'il va ? Vous les connaissez forcément.
Ah, alors, moi, je les connais. Il y a 3 concertos pour guitare seule. Il y a Concerto d'Aranjuez, La Fantaisie pour un gentilhomme, qu'on connaît quand même, La Fantaisie.
Oui, ça c'est dit. Jouer en enregistré.
Voilà, ça a été pas mal fait, souvent en parallèle avec le concerto d'Aranjuez. Il y a Concerto para una fiesta, qu'on n'entend jamais. Il y a le concerto madrigal pour 2 guitares et orchestres et le concerto andalou pour 4 guitares et orchestres.
Voilà. Il a fait comme Jean-Sébastien Bach, là. Hein. Un clavecin, deux clavecins.
C'est ça, et ça marche vraiment bien. Moi, le concerto madrigal pour 2 guitares et orchestres, j'adore.
Alors, pour revenir au concerto d'Aranjuez, apparemment, il s'inspire de musique plus ancienne, de Scarlatti, du Padre Antonio Soler. Est-ce que vous confirmez ?
Alors, on lit ça, même Rodrigo, quand on lit, il y a ça décrit, mais il n'y a pas de citation dans la musique de Rodrigo, il n'y a pas de citation de Scarlatti, il n'y a pas de citation de Padre Soler. Donc on se dit que c'est peut-être finalement un imaginaire baroque qu'il a recréé et qui, pour moi en tout cas, se retrouve dans le troisième mouvement. Moins dans le premier et dans le second, mais dans le troisième mouvement, là on est à la cour. Vraiment, on est à la cour du roi, donc je pense que c'est vraiment en référence à ce mouvement.
Donc le titre, c'est en référence au jardin d'Aranjuez.
Au palais d'Aranjuez.
Donc au jardin du palais.
Voilà, il parle des jardins, il parle des odeurs, des fragrances,
fragrances de magnolia. Le chant des oiseaux, le ruissellement des fontaines.
On ressent tout ça quand on écoute cette musique.
Oui, on ressent beaucoup de choses.
Non mais c'est vrai, c'est très très...
Alors la première, c'est à Barcelone, le 9 novembre 1940. On sera pas loin du 80e anniversaire. Hein. Et donc, c'est Regino Sainz de la Maza qui va le créer avec l'Orchestre Philharmonique de Barcelone.
Exactement. Sainz de la Maza, donc la personne qui lui a commandé, ou en tout cas qui l'a encouragé à composer ce concerto, va le créer en 1940. Grand guitariste, Sainz de la Maza, qu'on connaît très peu, finalement. Grand guitariste et grand compositeur que j'ai aussi voulu mettre à l'honneur dans cet album, en mettant finalement l'album. De toute façon, je l'ai construit avec 2 pièces maîtresses qui sont des concertos, et en face de chaque pièce, le reflet en solo. Donc là, le reflet du concerto d'Aranjuez, c'est la musique de Sainz de la Maza.
Alors, il y a Serge Chosy qui me fait de grands signes, parce qu'il veut préciser quelque chose de très important et de tout récent, et effectivement, il faut le dire, ce CD vient d'être récompensé par quoi ?
Ah bien, par un diapason d'or de la revue Diapason, qui est quand même la plus grande revue des disques classiques en France. Donc, alors, je voudrais simplement citer le début de l'article, parce qu'il est très parlant. « Depuis combien de décennies n'avions-nous pas vu l'or briller sur un concerto d'Aranjuez ? Armé d'une palette de timbres, d'une assurance et d'un chic rythmique éblouissant, le jeune Thibaut Garcia inscrit l'œuvre dans le tableau d'un XVIIe siècle revisité. » Et voilà, on retrouve ce que Thibaut vient de nous dire.
Thibaut Garcia qui est tout rouge.
c'est très élogieux. Mais ça fait plaisir de voir que quand on s'attache à cette musique-là et qu'on la défend, de voir qu'il y a des gens qui reçoivent tout ça.
Et puis l'article dit beaucoup de bien de l'accompagnement.
Ah bah oui.
Et dit que vraiment, l'Orchestre National du Capitole est un écrin précieux. Il parle notamment des interventions des bois qui mettent en valeur le fruité, la verve des vents toulousains. Donc,
que j'ai pu retrouver en répétition ce matin.
Et voilà, formidable. Encore un éloge des musiciens toulousains formés à Toulouse à travers vous, Thibaut Garcia, et l'Orchestre du Capitole. Eh bien, pour vous montrer quel point il est beau ce CD, je propose qu'on en écoute un premier extrait. Et un extrait, bien sûr, du concerto d'Aranjuez joué par Thibaut Garcia, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, le premier mouvement Allegro con Spirito. le premier mouvement Allegro con spirito du concerto d'Aranjuez de Rodrigo, interprété par Thibaut Garcia, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction, il faut le préciser, de Ben Glasberg dans ce CD. Racontez-nous comment est né ce projet d'enregistrement, parce que l'enregistrement a été réalisé il y a un peu plus d'un an, à la Lorraine, je crois que c'est ça. Est-ce que vous rêviez d'enregistrer cette œuvre depuis longtemps et de le faire évidemment sur votre terre de naissance ?
Alors, quand on est guitariste, on rêve d'enregistrer le concerto d'Aranjuez. Par contre, je pense que comme pour tout dans la vie, il y a des moments pour le faire. Et jusque-là, puisque la première fois que j'ai joué le concerto, c'était avec l'Orchestre du Capitole il y a quelques années. Et jusque-là, voilà, je sentais que c'était pas le moment, que c'est pas le moment de le faire. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu un déclic et je me suis dit, là, j'ai vraiment envie. Et puis, c'est quelque chose que vous avez dans le ventre. Vous savez, un album, ça doit sortir de quelque chose qui vous titille, qui vous meut. Donc, pour le coup, c'était vraiment le moment pour moi de faire ce disque.
Et le résultat est totalement conforme à ce que vous attendiez, peut-être même supérieur, qui sait ?
Je suis très heureux du résultat. C'est dur de supérieur parce qu'on a un idéal.
Oui, en général, on ne l'atteint pas.
Et en plus, moi, je suis quand même assez...
Perfectionniste.
Souvent avec les ingé sons, qui sont d'ailleurs extraordinaires. L'équipe technique,
oui,
du
c'est
disque,
vrai, c'est leur
que
réputation.
Je tiens à remercier.
Oui, c'est vrai.
Hugues Deschaux, Laure Cazenave, qui sont absolument exceptionnels, ont été super. On a fait un gros travail, on a travaillé sérieusement. Et tous main dans la main, on était sur la même longueur d'onde, donc ça fait un beau projet.
Alors, il n'y a pas que le concerto d'Aranjuez de Rodrigo sur ce CD, vous en avez déjà un petit peu parlé. Quelles sont les autres pièces et les autres compositeurs qu'on y trouve ? Évidemment, Reginio Sainz de la Massa, pour rendre hommage à celui qui a créé le concerto d'Aranjuez en 1940, mais qui est aussi un compositeur.
Qui est aussi compositeur, guitariste, arrangeur. Et lui s'est beaucoup inspiré, d'ailleurs on le voit dans les pièces du disque, de la musique folklorique espagnole. Parfois je reçois des retours de gens qui me disent « Ah, mais on dirait presque du flamenco parfois !» Mais en effet, il y a quelques pièces qui sont vraiment inspirées de la musique populaire.
Alors il y a deux autres compositeurs sur ce CD, Alexandre Tanzmann et Robert Devizet. Alors là, il faut nous les présenter parce que je pense que pour le grand public, leurs noms ne disent rien.
Ah, mais je vais vous en parler parce que ce sont des compositeurs que j'affectionne particulièrement. Alors Alexandre Tanzmann, qui est né en Pologne et qui a vécu en France une grande partie de sa vie, donc on peut dire que c'est un compositeur français dans l'âme, même lui je pense que se considérait comme tel. Et c'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui a composé pas mal de pièces pour guitare. Et toujours dans un esprit, je pense qu'il aimait le jeu, de se prêter au jeu de composer comme dans une autre époque. Il a composé de manière romantique, de façon baroque. J'ai d'ailleurs enregistré dans mon disque précédent des œuvres hommage à Bach d'Alexandre Tanzmann.
Oui, ça me disait quelque chose, effectivement.
Et ici, on a Alexandre Tanzmann qui s'illustre dans une réorchestration de la musique baroque française de Robert Devizet. Donc il reprend des thèmes de suite composés pour guitare baroque, il les orchestre et... à la manière de Pulcinella de Stravinsky ou de la fantaisie pour un gentilhomme de Rodrigo, on a ce rendu qui s'appelle musique de cour et qui est plutôt une suite qu'un concerto.
Donc Robert Devizet, guitariste, théorbiste, luthiste, français comme son nom l'indique, ouais. C'est quoi, c'est 17e, 18e, c'est un peu un contemporain
c'est,
de Bach.
C'est Louis XIV.
Oui,
c'est
d'accord.
Louis XIV, c'est-à-dire que c'était même le professeur de guitare de Louis XIV, le guitariste préféré de la cour du roi. Donc c'était pas n'importe qui Robert Devizet.
En effet, être le professeur de guitare le maître de guitare de Louis XIV, ça devait pas être très simple de lui dire « Attention, c'est pas bien ce que vous avez fait, hein. Votre Majesté se laisse aller. »
Est-ce qu'il tapait sur les doigts de sa Majesté ?
Je ne sais pas s'il a enseigné Louis XIV quand Louis XIV était enfant-adolescent ou si c'est plus tard.
Je crois que c'est quand il était adulte, parce que Louis XIV jouait de la guitare, il adorait la guitare.
Je le crois d'autant plus qu'en fait, il était plus jeune que Louis XIV, Robert de Vigny.
Oui,
il est mort en 1732, Louis XIV en 1715, donc oui,
c'est
fatalement. Voilà. Alors je crois qu'on m'en voudrait beaucoup si je ne diffusais pas un autre extrait du concerto d'Aranjuez avant de refermer ce chapitre consacré au CD que vous lui avez dédié. Et bien sûr, on va écouter l'Adagio, ce deuxième mouvement qui donne toujours des frissons.
Thank you.
le deuxième mouvement Adagio du concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interprété par Thibaut Garcia, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Ben Glasberg, second extrait de votre CD Aranjuez, paru, je le rappelle, sous le label Erato Warner Classic. Serge Chosy, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais ajouter le fait que la suite en la mineur de Robert de Vizet, qui accompagne les transcriptions par Tinsman de musique de cour de Vizet, cette suite donc a été adaptée pour la guitare par Thibaut Garcia.
Et oui, j'ai réalisé le travail d'arrangement et c'est vrai que quand j'ai voulu mettre en reflet donc ce concerto de Tinsman inspiré par De Vizet, j'ai regardé bien sûr le répertoire pour guitare baroque de Vizet, mais c'est très difficile de transcrire la guitare baroque à la guitare. C'est beaucoup plus facile de transcrire le luth le théorbe à la guitare. Oui, pour des raisons techniques, d'accords de guitare, de façon...
Il faut être vraiment musicien pour comprendre.
On en reparlera dans une émission consacrée à la guitare baroque, si vous voulez.
Mais voilà une idée qu'elle est bonne.
Mais ce sont des pièces pour luth et théorbe de Robert de Vizet.
Nous allons rester à Toulouse pour parler d'un autre projet qui vous tient à cœur. C'est la saison Toulouse Guitare que vous organisez avec vos parents Jules et Gaël, que je salue au passage. On en est déjà à la troisième saison et dès la première, ça a été un succès. Le public a répondu présent en nombre, signe que la guitare classique a vraiment toute sa place dans la Ville Rose. Alors, la formule, c'est 5 concerts par an. Les lieux, c'est Chapelle des Carmélites, Salle du Sénéchal, il y a eu le Temple du Salin, l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, avec un concept bien particulier, c'est-à-dire il y a une tête d'affiche, mais il y a toujours un jeune ou une jeune guitariste. En première partie, vous avez ouvert la saison actuelle avec Judika Elperoy il y a quelques semaines. Et même si ce concert est passé, je voulais que vous nous disiez un mot sur ce musicien parce que je sais qu'il a été très important pour vous. C'est même un de vos maîtres, on peut le dire.
Ah, on peut dire ça complètement. Judika Elperoy, j'ai eu la chance d'étudier 3 ans avec lui à Paris en cours privé. Et ça fait partie des rencontres qui vous changent. C'est-à-dire que, bon, je travaillais ma guitare énormément, je faisais mon bout de chemin, mais vous savez, il y a des portes qui sont bloquées techniquement, musicalement, il y a des blocages, et vous rencontrez des personnes, Judika Elle en l'occurrence, qui a réussi à me développer en tant que musicien, à comprendre ce que je voulais, où je voulais aller, et à me donner les outils. Donc je le remercie pour ça. C'est un professeur exceptionnel, mais que tous les conservatoires, les meilleurs conservatoires du monde, s'arrachent. C'est-à-dire San Francisco, la Haute École de Genève, même le CNSM de Paris, enfin voilà, tout le monde le veut. Et puis c'est aussi un performeur, c'est aussi un concertiste, vous l'avez vu.
On a pu s'en rendre compte, d'ailleurs, j'en ai parlé ici même.
Vous avez pu le vivre, donc c'est quelqu'un que je respecte et que j'admire beaucoup.
Le prochain concert doit avoir lieu vendredi 4 décembre, là encore en touche du bois, à 20h, salle du Sénéchal. Ce sera un récital du guitariste croate Zoran Dukic. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce musicien ?
Et bien sûr, Zoran Dukic, un autre très grand soliste à l'heure actuelle, un peu un incontournable aussi. Zoran, que j'ai rencontré dans beaucoup de festivals, j'ai même eu la chance de partager un concert avec lui à New York. Donc il sera à Toulouse, c'est un artiste que j'aime parce que c'est un chercheur de sons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous allez entendre des sons sur la guitare que vous n'avez pas encore entendu sur une guitare, ça je peux vous le promettre. Et puis une palette de dynamique qui est très grande, c'est-à-dire qu'il va dans des pianos extrêmement délicats et puis parfois il va dans des fortissimos qui font presque exploser l'instrument. Donc c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est une personnalité assumée. Et c'est pour ça que je l'aime, cet artiste, et c'est pour ça qu'on l'invite.
Peut-être que son tempérament balkanique aussi transparaît dans son jeu.
C'est quelqu'un qui a du tempérament, ça je peux vous le dire.
Vous savez quel programme il va jouer ?
Il va jouer, alors ce sera un programme inspiré de son album Bach Piazzolla. Il a choisi de faire un ping-pong, comme un reflet entre Bach et Piazzolla, et j'ai hâte d'écouter ça parce que je l'ai encore jamais entendu en live.
Eh bien, on va, je le redis, croiser les doigts pour que ce concert puisse bien avoir lieu, parce que rien n'est sûr en ce moment. En attendant, voici Zoran Dukic dans ses œuvres, et il interprète justement ici le célèbre Adios Nonino d'Astor Piazzolla. Thank you. Adios Nonino d'Astor Piazzolla, joué par Zoran Dukic. Le guitariste croate doit donc se produire en récital vendredi 4 décembre à 20h, salle du Sénéchal. Le concert qui va suivre est programmé jeudi 28 janvier 2021 à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines cette fois-ci. Et c'est le quatuor Eclis qu'on va y entendre. Un quatuor de guitare, c'est pas commun ça Thibaut tout de même.
C'est pas commun un quatuor de guitare, alors on en trouve de temps en temps, mais la particularité de ce quatuor, en tout cas c'est aussi pour ça qu'on les a choisis, moi je les connais bien, je les connais depuis le Conservatoire de Paris, c'est que c'est un quatuor qui déjà travaille comme un quatuor à cordes, c'est-à-dire au niveau de la sonorité, au niveau du son, au niveau de dynamique. C'est pas juste quatre guitares, c'est un vrai ensemble, ils arrivent à trouver des textures et ils arrivent même à transcrire des œuvres orchestrales et à vous faire sonner un orchestre à quatre guitares. Donc c'est assez génial.
Le programme, parce qu'il semble qu'ils jouent beaucoup de transcriptions qu'ils font eux-mêmes.
Eh oui, j'imagine. Beaucoup d'arrangements, il y a très peu de choses qui ont été composées pour quatuor de guitare. C'est pour ça que je parlais des transcriptions orchestrales. Et là, ils vont nous jouer un programme de musique espagnole.
Ah, ce sera de la musique espagnole.
Tefaya, Albéniz. Donc on va être servi, on aime la musique espagnole, surtout à Toulouse.
Oui, ça je ne le fais pas dire.
Ah oui,
c'est évident.
Puis quand on pense guitare classique, c'est vrai qu'on pense souvent musique espagnole, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais ce qui est souvent vrai quand même.
C'est un aspect de la guitare classique, c'est une des identités de la guitare classique.
Alors, on vient de le dire, le Quatuor Eclis va jouer beaucoup de transcriptions pour guitare d'œuvres classiques du répertoire. Alors, je n'ai pas choisi une œuvre composée par un musicien espagnol. Encore que, il y a quelque chose. Voici le prélude de la suite bergamasque de Claude Debussy par le Quatuor Eclis. Le prélude de la suite bergamasque de Claude Debussy interprété par le Quatuor Eclis que vous pourrez découvrir en concert à Toulouse jeudi 28 janvier 2021 à 20h à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Il restera encore deux concerts de la saison Toulouse Guitare après celui-ci. D'abord celui de Thomas Xaba, vendredi 19 mars à 20h, salle du Sénéchal. Alors lui c'est un guitariste, un artiste assez singulier puisqu'il mélange souvent musique et art visuel dans ses concerts.
Et oui, parce que lui-même dessine, et dessine très très bien. Il a un vrai imaginaire, il a un monde à lui que j'adore, et c'est ça qu'on a voulu présenter, c'est-à-dire qu'il va jouer de la guitare, mais il y aura une présentation de ses dessins alors avec un rythme bien particulier qui va aller avec la musique, qui va nous raconter des histoires. Et ce sera, c'est ça que j'aime avec cet artiste, c'est que c'est son monde et il va nous emmener dans son monde.
Alors il va jouer un programme, là aussi c'est des transcriptions ou il y a des choses qu'il compose lui-même peut-être?
Non, là c'est des arrangements aussi.
Programme à découvrir. Et puis la saison va se terminer vendredi 21 mai à 20h à la Chapelle des Carmélites avec le concert d'une guitariste, la jeune italienne Carlotta Dalia. Elle a 21 ans et elle a déjà remporté pas moins de 20 prix internationaux. Excusez du peu, Carlotta Dalia était entre autres l'élève de Carlo Marchionne. Et je crois savoir que vous avez la plus grande admiration pour ce musicien.
Ah, Carlo Marchionne, c'est un guitariste que j'aime beaucoup. Comme prof, j'ai eu la chance de prendre des masterclass avec lui, mais comme musicien aussi, j'ai écouté des magnifiques concerts. Et Carlotta, ben oui, on dit qu'il y a peu de femmes guitaristes, mais il y a des femmes qui jouent extrêmement bien, bien sûr, et on les met à l'honneur aussi à Toulouse Guitare. Carlotta est une jeune artiste que j'ai rencontrée en Italie, pareil, dans des festivals. C'est ça qui est génial avec les festivals, c'est qu'on rencontre les artistes et on les vit au plus près.
Et vous nous les amenez à Toulouse en plus.
Eh ben voilà, ben vous aurez la chance de la découvrir aussi.
Merci Thibaut.
Alors le programme, là aussi je crois que c'est beaucoup de transcriptions pour guitare d'œuvres du répertoire classique, semble-t-il.
Oui, mais elle va jouer aussi du Castelnuovo Tedesco.
Ah oui.
Qui est un compositeur italien qui a composé pour la guitare énormément de pièces, mais dans une esthétique bien à lui. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce compositeur, c'est qu'il va dans des tonalités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la guitare, et donc qui font sonner l'instrument avec une couleur différente.
Voilà, Carlotta Dalia, dernier concert de la saison, vendredi 21 mai à 20h à la Chapelle des Carmélites. Ce numéro de Mélomanie est terminé. Merci à mon ami Serge Chausier d'en avoir été une fois de plus le brillant chroniqueur. Tous mes remerciements également à Thibaut Garcia d'être passé nous voir entre deux répétitions. C'est toujours un plaisir de vous recevoir Thibaut, vous le savez. Je rappelle donc que le concert que vous donnez avec l'Orchestre National du Capitole ce samedi 31 octobre à 18h est maintenu, bien qu'il soit fermé au public. Il va être retransmis en direct sur la page Facebook de l'orchestre et vous allez y jouer sous la direction du chef britannique, nous n'avons pas parlé de lui, Kerem Hassan, le concerto des Arendtruez de Joaquin Rodrigo. Il y a aussi la symphonie numéro 3, l'héroïque de Beethoven au programme. Et héroïque, il faut l'être en ce moment pour supporter la période que nous vivons. Concernant la saison Toulouse Guitare, le prochain concert, celui de Zoran Dukic, est prévu vendredi 4 décembre à 20h, salle du Sénéchal. Vous pouvez d'ores et déjà acheter et réservez vos places sur le site www.toulouseguitare.fr où vous trouverez également la présentation des autres concerts de la saison. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité et écoutez de la musique pendant ce confinement. Je sais que c'est une épreuve, alors très bon courage à tous.